comprends,
oui,
c'est ça.
Oui,
oui, effectivement, on a déjà eu d'ailleurs des appels. Donc moi, personnellement, j'ai déjà eu des appels des personnes qui habitent dans un immeuble où il y a des cris, des hurlements de femmes qui pleurent, qui vraisemblablement correspond à un problème de violence. Et c'est posé la question, et c'est posé la question quoi faire, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas au courant non plus à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que voisin, intervenir ou pas intervenir? Et là aussi, c'est un pas envers, comme disait Guylaine, justement, de briser ce mur de silence. C'est aussi qu'il faut justement reconnaître que ce n'est pas un problème entre couples seulement, mais c'est un problème qui sort de là, qui est un problème social. Donc il faut aller frapper à la porte à la limite du voisin et puis leur demander qu'est-ce qui se passe. Au moins que la personne, le monsieur en question qui est en train de taper sa femme, se rend compte qu'il est en train de faire quelque chose d'un délit très grave.
Oui, parce qu'on a l'impression que souvent, les maris qui agissent violemment à l'égard de leur femme ou de leur compagne jouissent d'une impunité totale, quoi. Finalement, ils sont reconnus à l'extérieur comme s'ils étaient les meilleurs.
Oui. Exactement.
Michel, vous avez aussi eu cette sensation-là?
Oui, parce que lui, avec ses amis, avec les gens en dehors, tout le monde les connaît comme s'il est très, très gentil. On ne dirait pas qu'il est comme ça, mais à la maison, ça, c'est moi qui vivais avec lui, c'est moi qui les connais. Parce que les gens en dehors, ils disent non, il n'est pas comme ça. Je dis, mais c'est moi qui vis avec lui, c'est moi qui sais qui il est vraiment.
Ça veut dire qu'à la limite, on ne vous croyait pas quand vous parliez cet aspect de sa personnalité.
Oui, parce que je ne parlais jamais, je ne disais jamais aux gens. Il m'est tapé la nuit, le matin, je me lève avec les sourires comme ça. Je me cache derrière mon visage, je me cache, quoi. Mais après, quand j'ai vu qu'il continuait comme ça à me taper, à me faire tout ce qu'il veut, je dis pourquoi moi, je ne peux pas parler pendant que lui, il va au café, il dit à ses copains, ses amis, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est ceci. Moi je dis pourquoi moi je dois rester comme ça sans rien dire. J'ai commencé à parler, c'est en parlant que j'ai pu connaître l'adresse de Solidarité Femmes, parce que si j'avais si j'ai parlé jamais je saurais qu'il existe la Solidarité Femmes, et aujourd'hui je serais encore là-bas chez lui.
Je crois que c'est important de souligner l'aspect que vient de souligner Michel, dans le fait que ce mari, il est toujours vis-à-vis des autres, comme très très apprécié, quelqu'un de sociable, quelqu'un de gentil, souvent un père très bien avec ses enfants. Et c'est vrai que c'est encore une démarche plus dure pour sa femme de devoir dire « Non, mais cette image que vous avez est fausse, celle que j'ai moi avec lui dans l'intimité de notre quatre murs est très très différente. » Et beaucoup de femmes qui viennent chez nous disent « Mais pourtant, il est apprécié de tout le monde croit que j'ai vraiment un mari agréable, ainsi de suite. » Et je crois que c'est un point important du veut paraître, et de nouveau ce qui se cache au niveau social, et de ce qui existe entre quatre murs d'une situation privée, intime.
J'ai lu, je suis tombée par hasard en préparant cette émission sur un article de l'événement du jeudi qui parle des hommes qui battent leurs femmes et qui se mettent à parler. Il y a aussi, semble-t-il, en France, à Marseille par exemple, ou à Lyon, des associations qui aimeraient être un lieu d'accueil pour les hommes qui agissent violemment à l'égard de leurs femmes en essayant de les encourager à briser ce lien. Et entre autres, on s'aperçoit effectivement, je lisais, qu'il y a parfois parmi ces hommes violents des gens dont on ne s'imaginerait pas une seconde qu'ils le sont. Par exemple, on nous donnait comme cas un militant reconnu comme étant militant féministe, syndicaliste et apparemment très bien dans sa peau. C'est vrai que quelqu'un qui milite pour les droits de la femme dans son syndicat, on peut effectivement avoir de la peine à s'imaginer que par ailleurs, il va battre sa compagne.
Mais je crois que ça souligne ce que j'essayais d'expliquer avant, en disant que c'était vraiment dans tous les milieux sociaux qu'on retrouve ce type d'agression. Et tu vois, le militant féministe qui bat sa femme, effectivement, c'est un exemple qui est presque caricatural, mais je trouve qu'il est, très bon, quoi.
Est-ce que les gens autour, les voisins, les amis, etc., Michel par exemple, ceux avec qui vous avez commencé à parler, ils vous ont dit mais vous avez qu'à partir, t'as qu'à partir. Est-ce que les gens comprennent mal pourquoi c'est difficile de se sortir de ce phénomène-là?
Quand j'ai commencé à parler, les gens m'ont dit mais essaye de téléphoner, tu discutes comment ça se passe, tu pars quoi. Pourquoi tu restes? Tu n'as qu'à partir. Et puis moi, j'ai dit, au début, j'avais peur de partir. J'ai dit, où est-ce, comment je vais faire toute seule avec mon fils? J'ai pas de travail, j'ai rien.
Donc puis, le tac à partir, oui, il n'était pas si simple que oui, ça à réaliser.
Oui. C'est pas facile. Mmh. Tout d'un coup de prendre la valise comme ça, de sortir de la maison.
Et ça, j'imagine, Daniela Guilaine, que bien sûr, c'est le problème principal des femmes qui viennent s'adresser à Solidarité Femmes.
Et puis c'est vrai, c'est le genre de rapproche qu'on entend plus souvent comme cliché, je dirais. La femme, elle n'a que partir, et si elle reste, ça veut dire qu'elle veut bien de ça et tout ceci. Ça rentre dans ce genre de questions. Mais pourquoi justement la femme supporte cette violence et pourquoi elle reste? Ça, il y a des enjeux très grands à l'intérieur des deux partenaires. Donc il y a une relation de dépendance affective qui est importante. Et puis c'est clair que si elle se sépare du partenaire, elle souffre, elle se sent perdue, incapable d'affronter la réalité quotidienne parce que elle est dans un cycle de violence qui lui permet pas de sortir de ça. Donc on explique, des études ont bien expliqué ce cycle où il y a une espèce de cercle qui sans fin qui se suit, qu'il faut casser à un certain moment. Alors, les constructions des tensions au départ, l'explosion de la violence après, le sourcil amoureux, donc le retour au moment de tendresse, qui sont importants parce que souvent la femme en question, c'est si elle vit cette relation de violence avec le mari, c'est le seul moment de tendresse qu'elle connaît, qu'elle vit. Donc c'est difficile sortir de là. Elle connaît ça. Elle sait très bien de quoi il s'agit, donc elle attend à la limite ces moments pour être de nouveau en accord avec son partenaire.
Plus les promesses de changement, comme nous parlait Michel tout à l'heure.
Exactement.
Mais alors, en fait, l'important, c'est d'arriver à un moment donné de se dire « j'ai plus à gagner qu'à perdre en partant ». Mais ça, j'imagine que ça peut se faire au bout d'un long temps. Je dis, il n'y a pas très longtemps, il y a une émission, j'imagine que peut-être quelques-unes, en tout cas vous, je sais que vous l'avez vue et d'autres l'ont peut-être vue sur la télévision française, Médiation, où il y avait des femmes qui racontaient, qui témoignaient qu'effectivement, elles ne sont parties de chez elles qu'après pratiquement 10 ou 15 ans de vie dans ce cycle de violence, d'accalmie, reviolence dont tu parles,
oui,
Daniela. Donc ça prend vraiment un long moment avant de se dire, allez, maintenant, c'est ce que je vais laisser, c'est finalement pas grand-chose par rapport à ce que je vais gagner, même si c'est l'inconnu.
Je crois qu'on ne sait jamais quand on part, qu'est-ce qu'on va gagner ensuite. Hein. On sait ce qu'on va laisser, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mmh. Effectivement, je crois que la plupart des femmes qui viennent se faire héberger chez nous ont souvent des enfants, ont souvent une vie de femme au foyer, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de nouveau cette indépendance financière et qu'il est difficile de prendre une décision quand on n'a pas un sou sur soi, qu'on doit quitter son logement, de partir avec deux enfants comme ça sous le bras en ne sachant pas qu'est-ce qu'on va trouver. Je dirais après, les services sociaux, les aiguilles, puis il y a un moyen d'aide et compagnie. Mais quand on part de chez soi, ça, on ne le sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va encore nous attendre. Et je crois que ça, c'est aussi un moment très, très difficile. Et on ne peut pas, à ce moment-là, encore voir quelle issue va arriver. Hein.
J'ai dû choisir quelques morceaux de musique pour illustrer notre émission. C'est pas très facile de trouver des femmes qui parlent de la violence à leur égard. Et j'ai choisi une chanson d'Edith Piaf qui s'appelle « Jeter dans la peau ». Peut-être ça illustre un petit peu ce cercle vicieux dans lequel se trouve la femme. Mais j'ai appris par ailleurs, en discutant avec Guylaine et Daniela, que j'aurais pu choisir un autre morceau de musique, mais je l'ignorais totalement. C'est qui, Guylaine ?
Alors, sur le premier album de Tracy Chapman, effectivement, elle a fait une chanson qui est consacrée aux femmes battues, qui s'appelle « Behind the Wall », donc « À travers le mur », et elle exprime ce qu'elle entend à travers ce mur, jusqu'au moment « Est-ce qu'il faut appeler la police ? Est-ce qu'il ne faut pas appeler la police ?» Finalement, la police qui arrive quand il est quasiment trop tard. Mmh. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous ? Elle reste uniquement là, avec sa mauvaise conscience, quasiment de voisine, toujours derrière ce mur.
En l'occurrence, Tracy Chapman, visiblement, s'est engagée aux côtés des
femmes. Voilà, je crois qu'elle s'est engagée dans plusieurs luttes, mais elle s'est entre autres engagée dans cette lutte-là. Et je sais qu'elle a proposé plusieurs concerts gratuits pour des maisons de femmes battues où elle chante bénévolement. Je crois que c'est quelque chose qui lui tient à cœur.
Alors pour la semaine prochaine, en souvenir de notre entretien, je retrouverai Tracy Chapman Behind the Wall. Mais pour cette semaine, ce sera d'abord Edith Piaf, Jetée dans la peau.
Toujours toi, rien que toi, partout toi, toi, toi.
Je t'ai dans la peau, y'a rien à faire, obstinément tu es là, j'ai beau chercher à m'en défaire, tu es près de moi, je t'ai dans la peau, y'a rien à faire, tu es partout sur mon corps, j'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur
pas m'empêcher de crier, tu es tout pour moi, je suis intoxiquée, et je t'aime encore, je t'ai dans la peau, y'a rien à faire, obstinément tu es là, j'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi, je t'ai dans la peau, y'a rien à faire, tu es partout sur mon corps, j'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres sur ma peau. Y'a rien à faire, j't'ai dans la peau.
C'était Edith Piaf, Jetée dans la peau. Nous sommes toujours dans Rue Mumenage sur Radio Zone 93.8. en compagnie des femmes de solidarité. Et vous pouvez toujours nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 0033 depuis la Suisse romande. Et n'hésitez pas à nous appeler pour poser des questions ou pour participer aux témoignages qui peuvent renforcer l'idée que nous nous faisons de la situation pénible que vivent les femmes victimes de violences conjugales. Alors, peut-être maintenant, il nous faut aborder cette autre partie du travail de Solidarité Femmes dont nous parlions au tout début. Vous disiez, il y a ce travail d'urgence qui est principalement d'accueillir les femmes au foyer, mais il y a aussi ce travail politique que vous menez, soit à l'intérieur du groupe lui-même, par rapport à votre réflexion, et puis par rapport à d'autres organismes qui peuvent essayer, avec lesquels vous pouvez essayer de collaborer pour essayer de faire avancer les choses, entre autres, changer les mentalités dont on parlait tout à l'heure, dans la société dans laquelle nous vivons. Alors dans ce cadre-là, je crois par exemple que vous avez participé au symposium organisé par le Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, dirigé par Marianne Frischknecht, qui s'est déroulé au mois de septembre passé. Alors pourquoi c'était important pour vous de participer par exemple à ce symposium? Qu'est-ce qu'on allait... Bon, le thème c'était effectivement la violence conjugale, mais par rapport à votre expérience, pourquoi c'était important d'y aller?
Donc c'était quand même sur la violence conjugale et sexuelle, hein, c'était les deux,
thème, oui.
Et organisé par le Bureau de l'égalité, mais avec l'aide de Solidarité Femmes et de Viol Secours, pour dire qu'il y a les deux associations. Bon, je crois qu'effectivement, pour nous, c'était très, très important, dans le sens où c'est la première fois qu'on a paru comme ça en public, qu'un débat comme ça a été ouvert. Je crois qu'il y avait beaucoup de... Bon, les gens qui étaient là, c'était surtout des représentants des services sociaux, de services qui sont touchés par cette problématique, mais qui même, là, ont découvert pendant ce symposium plein de choses, entre autres découvert le travail qu'on faisait. Je crois que c'était aussi important que les gens se rendent compte de ce qu'on fait. Certains ont même été assez épatés. Et pour nous, ça a été dans l'ensemble vraiment un point positif. Et même nous, on a beaucoup, beaucoup appris, parce qu'il n'y avait pas que Solidarité Genève ou Viol Secours, mais plein d'autres femmes qui venaient d'étrangers, entre autres d'Italie, de France ou de Belgique, qui avaient énormément de choses à apporter. Parce qu'aussi dans d'autres pays, ben, y a des choses qui existent chez eux qui n'existent pas encore chez nous. Ils ont pu amener aussi l'exemple de ce qui se faisait chez eux et de comment ça avait été un peu mis en place, des théories qu'ils ont, de leurs statistiques. Enfin, il y a eu beaucoup de choses vraiment. Et pour nous aussi, c'était quelque chose de très efficace, de très utile.
Vous êtes de toute façon en lien avec d'autres groupes Solidarité Femmes dans le monde, j'imagine, ou en Europe?
En tout cas, bon, on fait partie de la coordination nationale intérieure de la Suisse et en même temps, on participe aux colloques qui ont lieu en France et en Italie.
Pour vous, c'est important de faire partie de ces liens nationaux Absolument. Et internationaux. Ça renforce énormément votre action.
C'est un échange très riche et important parce que justement, on a l'impression qu'à ce sujet, on est de toute façon en arrière par rapport à eux.
C'est vrai, vous avez l'impression d'avoir moins de moyens, une action moins grande par rapport à d'autres.
Par rapport à d'autres pays, oui, c'est clair qu'on a une action moins grande. Bon, moi, je voulais un petit peu parler, développer le symposium ici ce soir, ce serait beaucoup, parce qu'il s'est dit énormément de choses, il y avait beaucoup d'ateliers qui étaient très intéressants. Moi, j'avais un petit peu envie de parler de la police, parce qu'effectivement, l'intervention de la police joue un rôle primordial. Dans quel sens elle joue un rôle primordial ? C'est que c'est eux qui sont le plus souvent les premières personnes qui sont présentes auprès d'une femme battue ou d'une femme violée, hein, ça c'est la même chose. Et c'est souvent eux qui sont là au moment de la crise en premier lieu. Effectivement, alors nous on trouve que souvent leur réaction n'est pas adéquate. Il y a beaucoup, dans ce que nous racontent les femmes, elles ont souvent eu affaire à appeler la police depuis chez elles. Les réactions sont assez inadéquates en général. Et on a essayé un petit peu de regarder, de se pencher sur la formation qu'avaient les policiers. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ils avaient peu de cours. Pour les policiers, les gendarmes, ils ont 2 heures de cours sur toute leur formation sur les violences. En ce qui concerne la brigade des mœurs, ils ont 2 journées qui sont reconduites tous les 2 ou 3 ans. Alors ça, c'est clair que ça nous semble totalement insuffisant. Ça. Et nous, notre demande maintenant, ce serait qu'il existe vraiment un cours qui aille dans ce sens-là pour les policiers, vu qu'ils sont les premiers à s'adresser aux femmes. On aimerait pouvoir collaborer vraiment avec eux. C'est ça le but, de pouvoir amener nous notre expérience et de pouvoir faire une collaboration. Là, j'aimerais peut-être un petit peu citer l'exemple qui a été justement bien expliqué pendant ce symposium. C'est l'expérience des femmes de Marseille qui travaillent à Solidarité Marseille. Elles collaborent depuis quelque temps avec la police et elles nous ont montré lors de ce symposium un film qui est la reconstitution en fait d'un viol. Alors on voit un viol et on voit ensuite la police qui arrive sur les lieux et qui a eu une attitude tout à fait adéquate. Et c'était même très drôle parce que pendant la vision de ce film, qui avait pourtant été un film très dur, hein, difficile à digérer, je crois, mais on a tout éclaté de rire dans la salle parce que leur attitude était tellement positive, exemplaire, en même temps assez paternaliste, et tout était tellement bien fait qu'on en oubliait même que c'était effectivement dans le cadre d'une formation. Alors c'est donc Solidarité Marseille avec la police qui ont fait ce film pour qu'il soit montré dans le cadre de la formation des policiers comme exemple de tout ce qui doit être fait quand eux se retrouvent dans une situation comme ça. Je crois qu'effectivement à Genève, c'est un petit peu les démarches dans lesquelles on aimerait rentrer. Est-ce que c'est par le biais d'un film ou par autre chose? Mais en tout cas, d'une formation plus adéquate.
Je m'excuse de t'interrompre, Guylaine, mais nous avons une auditrice en ligne qui aimerait vous poser une question. Peut-être si vous pouvez prendre vos écouteurs, parce qu'autrement, vous n'entendrez pas. Allô?
Oui?
Allô?
Bon. Allô?
Allô, Viviane, vous nous entendez?
Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, bah, allez-y, posez votre question.
En fait, ce n'était pas vraiment une question, c'était un peu un commentaire sur ce qui s'est dit avant par rapport au fait que les femmes hésitent à partir.
Oui.
En regardant cette émission à la télévision française, il y avait un point de vue que je trouvais très intéressant, c'était le fait de dire, mais pourquoi c'est aux femmes de partir? Finalement, c'est leur maison, c'est tout autant leur maison que celle de leur mari. Elles n'ont rien commis, elles n'ont commis aucun délit, aucun acte grave. C'est le mari qui a commis un délit, et on ne voit pas pourquoi c'est lui qui pourrait rester tranquille chez lui, dans ses affaires et tout, puis à elle de chercher une solution pas toujours confortable, parce que même si ses foyers existent, puis c'est très bien, c'est pas toujours la solution la plus... c'est pas une solution très confortable. Alors, je ne sais pas si vous travaillez aussi dans ce sens, de dire, au fond, c'est aux femmes qu'il y ait un droit de maintien de la femme chez elle, et puis que la police et la justice trouvent les moyens pour empêcher le mari de rentrer chez lui s'il est violent.
Voilà. Ben, c'est clair que nous, on aimerait aussi pouvoir permettre aux femmes de rester dans leur logement. Je crois que c'est vraiment un point difficile. On l'a très bien vu dans cette émission de médiation, comme vous le dites. Cette femme qui partait avec 5 enfants dans un poste de police, qui a été trimballée dans plusieurs villes, plusieurs centres. C'est vrai que c'est pas normal de voir une femme et ses enfants à la rue et de constater qu'un mari seul, qui est lui le batteur, se retrouve dans un 5 pièces à l'aise avec sa télé, sa vidéo, son mobilier confortable et sa femme qui se retrouve dans une situation difficile avec tous ses enfants. Mais effectivement, pour l'instant, le problème, c'est que la loi ne va pas dans ce sens-là.
Parce que ça veut dire qu'en Suisse, par exemple, il n'y a pas de loi qui protégerait la femme pour qu'elle puisse rester dans son appartement et qu'on en exclue le mari battu.
Non, pour l'instant, ça n'existe pas. Non.
Parce que je crois que c'était non plus pas le cas en France, hein, si je me souviens bien.
Voilà, justement, en France, dans médiation, ce qu'elles essayaient de demander, c'est que la loi aille dans ce sens-là. Que dans les cas de violence conjugale, on puisse avoir le maintien de la femme dans son foyer avec ses enfants et que ce soit le mari qui partent. Mais on le voyait aussi dans les témoignages qu'il y a eu dans médiation, à quel point aussi la police ne sait pas quoi faire. Je crois que c'est aussi beaucoup ce qui se passe à Genève. Quand une femme appelle la police en pleine nuit pour dire qu'elle est réellement en danger, on lui rit souvent au nez. Il est vrai que les policiers souvent s'identifient plus à l'homme qu'à la femme, ne prennent pas forcément ses propos en considération. Et que, ma foi, tant qu'il ne se passe rien de réellement grave à leurs yeux, effectivement, ils ne viennent pas intervenir pour faire sortir le mari de l'appartement. Ou bien si on le prend, c'est pour qu'il aille une heure ou deux se calmer dehors, voire même le pire qui peut être fait, c'est qu'il le garde au poste pendant une nuit. Mais ça, c'est déjà quelque chose d'assez rare. Hein. Et qu'effectivement, le mari peut revenir une heure après, et puis ça ne change rien au problème.
Mais disons, moi, je trouvais que... c'est une idée, c'est une belle idée, enfin, disons, c'est pas une belle idée, c'est une histoire horrible des violences conjugales, mais de dire, parce qu'on nous répond toujours, mais les femmes, elles ont qu'à partir, de continuer à dire, mais c'est pas à elles de partir. Bon, c'est, parce que finalement, il faut que, avant que les lois changent, il faut aussi que les idées fassent leur chemin.
Oui, tout à fait.
Par exemple, à Genève, je n'avais pas entendu. Enfin, peut-être vous, ça fait longtemps que vous le dites. Moi, c'était la première fois que j'entendais, puis j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'il fallait. Que quand on nous répond oui mais les femmes j'aime bien ça d'ailleurs l'approche qu'elles partent pas, et ben de dire ben non, elles ont tout à fait le droit de rester chez elles, c'est chez elles, c'est à lui de partir, c'est lui qui a causé un délit.
Mais il y a de plus en plus aussi des avocates, donc des avocates femmes qui nous contactent, qui travaillent avec nous, qui font cette démarche dans cette direction. Et ça, c'est très important, effectivement, que même les juristes eux-mêmes, dans leur demande de mesures provisoires, demandent tout de suite l'attribution d'un homicide conjugal à la femme, puis d'emblée, quoi. Ça, c'est très, très important. Puis c'est en train de changer petit à petit, effectivement.
Bon, merci.
Merci d'avoir appelé. Alors, pour juste continuer sur ce que nous étions en train de dire, là, Daniela, tu dis, il y a des juristes qui se battent avec vous, par exemple, pour obtenir qu'elles puissent avoir rester dans leur domicile conjugal. Est-ce que ça veut dire que dans les faits, il n'y a pas de loi qui protège la femme battue, à l'heure actuelle, dans la législation suisse, par exemple?
Non, justement pas, parce que là, au niveau de l'appartement, et la femme, elle reste, et elle doit partir, et le mari, on ne peut pas le déloger. Il n'y a rien qui permet cette action.
Donc battre sa femme n'est pas considéré comme un délit, comme un crime. Est-ce qu'une femme peut porter plainte contre son mari, par exemple? Il y a un argument
elle
là-dessus.
Elle peut tout à fait porter plainte, mais je crois que c'est une démarche d'autant plus difficile que c'est la seule qui existe quasiment. C'est d'aller vraiment jusqu'à la plainte, et là, il faut vraiment qu'elle ait envie de lutter déjà pour que ce soit entendu. Et d'autant plus, quelle difficulté pour une femme qui a vécu à la limite 10 années avec son mari, dont je ne sais combien, d'une relation amoureuse sur laquelle elle a reporté des idéaux. C'est vraiment difficile de porter plainte contre quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé, qui est le père de ses enfants. C'est vraiment une grande difficulté.
Et il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi la confrontation auprès des commissariats. Disons, là encore maintenant, et c'est scandaleux à ce niveau-là, c'est que chaque fois qu'il y a une femme qui veut déposer plainte auprès d'un commissariat, eh bien, elle est reçue par par des fonctionnaires qui n'accomplissent pas leur rôle. Donc, par exemple, comme là, la dernière, dimanche soir, il y a une femme qui a téléphoné, qui a été déposée plainte auprès du commissariat du poste de police de Cornavin. Et puis, elle pouvait. Donc, les agents n'avaient pas pris en considération sa demande parce qu'elle n'avait pas un certificat médical sur elle, parce qu'elle n'avait pas des traces. Ah, disons, pas seulement un certificat, elle n'avait pas des traces sur elle. Alors, c'est scandaleux à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, disons, le préjugé à ce niveau-là est vaste. Disons, tout permet cette attitude déjà difficile. Et donc, augmente cette difficulté pour les femmes de porter plainte, disons. Il y a cette difficulté que tu citais. En plus, il y a le fait concret qui empêche, donc qui fait peur à la femme.
Donc, on pourrait imaginer qu'une chose importante à proposer comme formation à la police, c'est entre autres une discussion sur la mentalité. Parce que j'imagine qu'un policier doit aussi, lui, vaincre les a priori qu'il a sur la violence faite aux femmes. Parce que s'il est convaincu que l'homme est dans son droit, parce qu'il a une certaine vision du rôle de l'homme dans la société et de celui de la femme, évidemment, il va toujours avoir tendance à minimiser l'acte commis par l'homme. Et on le voit bien, puisqu'on les relâche tout de suite quand ils sont même gardés un petit moment dans un poste de police et qu'on trouve ça pas grave. Donc on les relâche tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas cette première étape à faire prendre conscience aux agents de police, mais c'est pas ça le rôle qu'on donne à l'homme et c'est pas ça qu'on donne le rôle à la femme. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est une discussion fondamentale.
C'est effectivement aussi tout le côté qu'on doit avoir tous au niveau de la société, que ce soit hommes et femmes. Donc on ne peut pas demander qu'à la police, je crois que c'est vraiment à tout le monde. Quoi. Mais déjà au moins d'avoir une formation adéquate, dans le sens qu'ils ne savent même des fois pas remplir les papiers pour les plaintes et tout ça. Et que souvent ça les embête. Ils savent aussi que les femmes battues, des fois au bout d'un mois, deux mois, elles retirent la plainte hein, parce qu'elles ont changé d'avis. Alors d'emblée, ils disent on ne va pas faire une plainte, on sait que vous allez la retirer. Et on se retrouve souvent confronté à ce problème. Mais pour dire un petit peu, là, peut-être un côté plus anecdotique, pour voir d'où on revient, là j'ai un petit texte qui sort du droit coutumier de Bruges au XIVe siècle, qui stipulait, je cite, « Le mari qui bat sa femme, la blesse, la taillade de bas en haut et se chauffe les pieds dans son sang, ne commet pas d'infraction s'il la recoue et si elle survit. » Donc je crois que ça montre aussi d'où est-ce qu'on vient depuis le XIVe siècle hein, et de l'évolution qu'il a fallu faire et qu'il faut encore faire.
Et
Morane, danser. Alors, la prévention, c'est aussi une chose qui vous importe, évidemment, parce que si on arrivait à faire changer les mentalités et éviter que la femme subisse les violences au sein de son couple, violence qui, rappelons-le, c'est pas seulement les coups, c'est aussi, par exemple, le viol à l'intérieur du couple qu'on ignore et qu'on fait beaucoup semblant d'ignorer, et qu'on sait que c'est une chose, hélas, importante et qui est très peu reconnue en Suisse, en tout cas. Donc, cette prévention, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez l'intention de lancer aussi une campagne d'information pour essayer de participer à ce travail de prévention.
Donc, on peut commencer, d'ailleurs, c'est très important le sujet que donc vous parlez, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une campagne qui est en route sur France. Donc, il y a le secrétaire d'État aux droits de la femme, Michel André, qui a lancé une campagne pendant 3 semaines, qui a débuté le 15 novembre. Il y a des spots télévisés qui énoncent justement la violence faite aux femmes parmi les spots publicitaires normaux. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et pendant cette campagne, il y a un numéro de téléphone où les femmes de toute France peuvent appeler. C'est un numéro gratuit.
24 heures sur 24,
c'est gratuit. Et puis c'est centralisé, c'est-à-dire que la centrale donne aux femmes en question le numéro de la région. Hein. Ça, c'est important. Et en même temps, nous, de notre côté, on fait partie, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la coordination nationale. À l'intérieur de cette coordination nationale, il y a une organisation fêtière qui est en train de mettre sur pied, donc, avec toutes les femmes, maisons de femmes battues en Suisse, une campagne d'affiches.
Cette campagne d'affiches, elle a pour but d'informer qui, enfin d'abord, quel est le but? C'est de transmettre quel type d'informations? C'est de mettre en garde? C'est de toucher les victimes? C'est quoi, essentiellement, Guylaine?
Moi, je crois qu'elle a déjà plusieurs buts. C'est de qu'elle va s'adresser aux femmes victimes de violences, mais aussi à monsieur tout le monde qui va se promener dans la rue, qui va peut-être être enfin confronté à ce qu'on lui pose cette question par rapport à la violence, hein, de rencontrer un panneau qui lui en parle, qui ait une réflexion derrière. Alors, je crois que c'est dans ces deux sens-là qu'on est en train de préparer cette campagne d'affiches. Je ne voulais pas en dire trop long parce qu'on n'est pas encore tout à fait déterminé sur le projet et tout. Cette campagne aura lieu les 2 premières semaines du mois de mai avant la fête des mères. Donc, vous imaginez qu'on pourra peut-être récupérer ce thème.
Tout à fait.
Pour la campagne.
Mais reparlons juste à qui vous vous adressez. Tu dis c'est d'abord les femmes victimes de violences, puis ensuite c'est monsieur et madame tout le monde. Est-ce que par exemple vous visez les jeunes dans cette histoire? Parce que quand même pour faire changer les choses, on a encore l'espoir que les jeunes femmes et les jeunes hommes agissent différemment.
Tout à fait, je crois que c'est primordial d'agir maintenant dans ce sens-là, dans la prévention. Donc en dehors de cette campagne d'affiches, actuellement nous avons une demande d'un cycle aussi qui fonctionne avec le groupe de coopération Coup de main avec lequel on participe à diverses actions depuis peu de temps. Et un cycle là nous a demandé de venir parler de la violence conjugale et de faire le lien avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment devenu d'une démarche individuelle comme ça dans un cycle, dans le cadre de débats qu'ils organisent. Alors j'espère que ça aura une autre suite parce qu'apparemment il y aurait d'autres demandes et c'est aussi des lieux sur lesquels on pourrait se rendre pour en parler, pour démystifier justement ce silence.
Ouais, à part ça, justement, ce que tu dis, ce travail est déjà aussi préparé à l'intérieur de la commission des sous-commissions à l'intérieur du bureau de l'égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire que c'est un sujet très important qu'ils sont en train de travailler, c'est la prévention, donc sous toutes ses formes et à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'intérieur des écoles et tout. Hein. Donc on toucherait les cycles d'orientation, les collèges, tous ces domaines-là. Je crois qu'il faut dire justement à propos de ça, il y a aussi une recherche donc qui va dans ce sens-là, une étude de statistiques précise qui va être mise sur pied par ce bureau. Donc en Suisse, parce qu'il n'y a pas de statistiques, hein, il y a des chiffres qui ne sont pas approximatifs, hein. Qui ne sont pas vraiment sérieuses jusqu'à maintenant. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi au niveau de la prévention, c'est à l'intérieur toujours de ce bureau, c'est ce qu'on voudrait développer, c'est la collaboration avec la... Donc avec tous les services sociaux, avec tous les services médicaux et la police. Donc ça regroupe un peu tout ce travail de prévention, hein, qu'on fait avec ce bureau.
Donc ça, c'est un travail qui est en préparation et en cours. Il n'y a pas encore de résultats pour l'instant. Ça a été un petit peu l'objectif concret que s'est fixé le symposium, par
entre
exemple.
Entre autres, oui. Mm-hmm. Ouais.
D'ailleurs, le Bureau de l'égalité a édité aussi, avec la collaboration justement de Solidarité Femmes et Viol Secours, la brochure Violence conjugale, viol, inceste, que faire? Ça, c'est un du travail mis sur pied assez rapidement par ce bureau, qui est distribué dans tous les services et hôpitaux.
Qui s'adresse donc là uniquement, enfin principalement aux femmes, hein, avec un peu leurs droits, comme Michel disait tout à l'heure, je ne savais pas que j'avais le droit de partir avec mon enfant. C'est quelque chose qu'on entend souvent, la peur d'un reproche lors du divorce, d'abandon conjugal. Donc là, c'est bien spécifié aussi, on peut partir de la maison sans abandonner le domicile conjugal.
Et on peut essayer de demander de pouvoir rester dans son logement parce que c'est pas nous qui avons commis un délit, mais c'est l'autre, effectivement. Je crois que vous avez, vous aussi, en tant que Solidarité Femmes, édité aussi une brochure et que vous venez de sortir et que donc peut-être nos auditrices pourraient vous demander. Est-ce qu'on peut, en s'adressant, en vous écrivant, l'obtenir directement? Comment, où trouve-t-on votre brochure? Comment la distribuez-vous?
Alors juste, notre brochure, ben c'est nous qui l'avons écrite et elle s'appelle « Violence conjugale, quelle perspective ?» Je crois qu'elle s'adresse aussi bien aux femmes qu'à toutes les personnes qui se sentent concernées, c'est-à-dire même des services sociaux. Cette brochure, elle peut s'obtenir chez nous en envoyant même une lettre pour la commander. C'est case postale 540-211-913. On peut obtenir cette brochure. En plus, on a aussi une série de dépliants qui peuvent être obtenus à la même adresse, qui peuvent être mises à disposition dans des permanences, dans des lieux sociaux, enfin pour de la large information, diffusion.
Alors, on va peut-être répéter votre adresse, je crois que c'est important, puisque c'est la façon qu'on a de vous contacter, votre numéro de téléphone, chose fondamentale. Alors, qui de Guylaine ou Daniel a
C'est égal, ben, notre téléphone, c'est le 797-1010. On peut peut-être juste aussi dire qu'en général, on est ouvert entre 14h et 22h. Et notre adresse, donc, c'est case postale 540-211-913.
Donc, le 797-1010, c'est bien sûr à Genève, donc le 022.
22 devant, oui.
Voilà. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir passé tout ce temps avec nous sur Remue Ménage. Merci à Michel d'être venu témoigner. C'était une chose très importante pour nous et pour toutes les femmes qui nous ont écoutées. Et pour la suite de votre travail, utilisez Remue Ménage quand il vous semblera que ce sera utile.
Merci.
Merci.
So I walk a little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people are apt to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be, and the smile on my face isn't really a smile at all? A little too much, and I drink a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, and I pretend it's taking your place.
but what else can you do at the end of a love affair? Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be? And the smile on my face isn't really a smile at all. So I smoke a little too much, drink a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, pretending it's taking your place. But what else can you do at the end of a love affair? But what else can you do at the end of a love affair? Oh, what else can you do at the end of a love affair?
C'était Ernestine Anderson. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est la fin d'une histoire d'amour? Si c'est conduire trop vite, boire un peu plus. Effectivement, voilà, des fois ça nous arrive, on se console comme on peut.
Kim Carnes.
Jenny loves John, but he doesn't care. Now that he loves another, I know that he's been getting his share. Sometimes I want to tell him, but I wouldn't dare. And tonight when she calls, she won't know that I'm there. Remember the nights and things we said, when we climbed in the back of us, driving me out of my head. And I want to tell you, may lightning strike me dead if it wasn't the best love that I ever had. It was love.
Kim Carnes, une dernière chanson avec Catherine Lara.
Sors de ta vie, de ta villa triste. Bon sang, il y a d'autres choses qui existent. Tu le sens, clé ni à poussière de tes permes.
Corinne Vacquer, elle, a secoué la poussière de ses chaussures, poussière européenne, et s'en est partie dans les grandes étendues du Kenya, où elle a vécu 3 ans. Et c'est cette expérience fabuleuse que j'ai découverte avec elle pendant toute une journée et que j'aimerais vous faire partager la semaine prochaine. Corinne Vacquer est ethnologue et elle est allée travailler, étudier ces groupes d'entraide de femmes au Kenya, ces femmes qui travaillent pour le développement de leur pays, et ceci bien avant que les organisations de coopération découvrent que les femmes étaient le pilier du développement. Alors à la semaine prochaine sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Salut!
Tu le sens, que range-moi tes affaires et dans la lumière. Rester 2 heures à parler sur un guéridon de café, lâcher ton imagination, couper le cordon.
Et maintenant tout de suite les informels de Radio Pleine Lune.
De ta vie, de ta vie la triste. Il y a d'autres choses qui existent. Tu le sens, même quand des voix.